Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Pascal Masirika.
À la une ce midi, affrontement jeudi à Kagere-Gere et à Marungu dans les hauts plateaux d'Uvira au sud Kivu. Ils opposaient des rebelles burundais de Red et Tabara aux présumés miliciens Imbonerakure. Le bilan dans ce journal. Au sud Kivu, le président de l'Assemblée provinciale, le rapporteur et son adjoint sont visés par une motion de défiance. Les députés provinciaux leur reprochent une gestion calamiteuse et le détournement de 10 000 dollars américains. Notre invité ce midi, c'est le ministre provincial du commerce de Kinshasa, Osé Badibanga, parle du délai butoir accordé aux expatriés de mettre fin au petit commerce. Il prévient que les propriétaires des usines qui fabriquent, fabriquent l'eau dans des conditions inappropriées seront traduits en justice. Madame, Messieurs, bonjour. Au sud Kivu, des coups de feu ont été entendus hier jeudi à Kagere-Gere et à Marungu, deux villages des hauts plateaux du territoire d'Uvira. Selon des sources locales, ces échanges de tirs opposaient une coalition de rebelles burundais de Red et Tabara aux présumés miliciens Imbonerakure à Uvira, le récit de Fiston Ngoma Mayabala.
Source de la société civile affirme que des populations locales ont fui vers les régions de Mashuba, Moulengue et Kaligi. L'information a été confirmée par les notables de Kigoma à l'ouest de la cité de Sangé. Les FARDC des 3304e régiment alerté promettent une mission d'évaluation dans les zones touchées avec l'appui des forces onusiennes de réaction rapide basées dans la plaine de la Ruzizi. Pendant ces temps, les habitants de Marungu, Kitoga, Kitembe, Kagere-Gere et Mashuba, dans la même région des Hauts Plateaux, ont hésité hier à se rendre sur le marché local après des rumeurs faisant état d'une attaque probable des présumés Maïmaï de Massango contre les Tuguaneo. Mercredi dernier, les mouvements de Maïmaï, Ilunga et Makanaki, alliés à Red et Tabara, ont été observés sur l'axe Massango-Kaololo. Des ex-combattants burundais du FNL ont fait une incursion dans la zone des rails et pillé des dizaines de vaches appartenant à un éleveur avant de se diriger vers le groupement de Muhungu. Un autre Maïmaï est allé négocier la libération de ce bétail. D'Uvira, Fiston Ngoma Mayabala, Radio Kapi.
En Ituri, pendant ces temps, 21 miliciens de la CODECO ont été condamnés par le tribunal militaire de Bounia à la perpétuité pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par meurtre et déportation, des faits qui ont été commis dans le territoire de Djougou. Par contre, 12 prévenus ont été acquittés par manque de preuves de culpabilité. À Bounia, le compte-rendu de Martial Kizabiamungu.
Depuis décembre 2017, les miliciens du groupe armé de la CODECO sont accusés des pires exactions contre la population locale civile dans les territoires de Djougou, Irumu et dans une partie de celui des Mahagi. Parmi eux, une centaine sont déjà arrêtés par des forces de sécurité et déférés devant la justice. Il leur est reproché d'avoir commis des crimes graves qui violent les statuts des Roms dans plusieurs villages du territoire de Djougou, notamment à Mazé, Kobo, Blukwa, Kilo, Tsuba, Tolo et Biliba, pour ne citer que cela. Parmi eux, 37 comparaissaient devant les tribunaux militaires de garnison de l'Ituri à Bounia. Ils étaient poursuivis pour l'assassinat le 10 juin 2018 à Kobu, région minière dans les territoires de Djougou, du président de la FEC locale. Un acte qui avait déclenché des violences à caractère communautaire. Jeudi dernier, la sentence est tombée pour les 37 prévenus. 21 d'entre eux sont condamnés à perpétuité. Par contre, pour insuffisance de preuve, le tribunal a ordonné l'acquittement de 12 autres prévenus, dont des femmes et des policiers. Notons que ces audiences à caractère pédagogique ont duré un mois et ont bénéficié l'appui de l'état-major de FARDC et de la MONUSCO. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Non loin de là, à Beni, au nord Kivu, la résidence d'un officier de FARDC a été incendiée et son enfant blessé cette nuit par de jeunes en colère. Les FARDC qui condamnent cet acte ont arrêté quelques manifestants. C'est une correspondance de Marc Marofimbo.
C'est tard dans la nuit de ce jeudi que des jeunes non encore bien identifiés ont attaqué la résidence du lieutenant Kitouvou de Sabouloussa Eric dans le quartier Boutili en commune de Moulekera. Ces derniers, qui seraient munis d'armes à feu, auraient commencé par tirer des coups de balle avant de mettre le feu à la maison. L'un de ses enfants, grièvement blessé par ces jeunes au niveau du ventre et de la tête, serait rapidement dépêché à l'hôpital général de Beni pour des soins appropriés. Les porte-parole des opérations Sokola 1 dans la partie grand nord de la province qui livre les formations indiquent que l'armée est vite intervenue et a réussi à récupérer une arme AK-47 et plusieurs munitions de guerre de ces jeunes, précise le lieutenant Anthony Malouchaï. Pour rappel, c'est depuis mardi dernier que les jeunes de ce quartier et ceux des groupes de pression visaient la maison de cet officier de renseignement où certains détenus étaient gardés. La première tentative a échoué le mercredi dans la journée. À en croire le lieutenant Anthony Malouchaï, ce dernier viserait aussi la résidence de plusieurs autres officiers militaires dans la ville qu'il suspecte de cacher le GDF, disent-ils. Dans son adresse ce jeudi à la population, le maire de la ville de Beni a interdit toute manifestation ou attaque contre les domiciles des particuliers. Modeste Bakwanama a appelé la jeunesse à prôner des actions de paix car la ville et territoire de Beni traversent une période critique. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Et puis, 3 blessés dont un grave. C'est le bilan dressé par le directeur général au lendemain de la tension qui a prévalu mercredi dernier à l'Institut supérieur de développement rural ISDER Mandaka. Il assure que le calme est revenu et que les cours reprennent progressivement. Pour en parler, retrouvons à Mbandaka Paul Richard Malengela.
Les activités ont repris ce jeudi à l'ISDER Mbandaka, 24 heures après des échauffourées qui ont mis aux prises des policiers et des étudiants dans l'enceinte de l'établissement, y compris des anciens pensionnaires du HOME qui en ont été déguerpis. Mais l'heure est maintenant à la réparation des dégâts causés par ces affrontements, dont 3 étudiants gravement blessés, ainsi que la destruction des portes, fenêtres et des bancs. Concernant l'étudiant blessé par balle et qui était passé pour mort, le directeur général de l'ISDER a rassuré qu'il est bel et bien en vie. Seulement, il présente une fracture ouverte. Il a subi une intervention chirurgicale en vue de l'extraction d'une balle reçue de la police. Le gouverneur de province lui a apporté son appui financier, a indiqué le DG Placide Makwa. Par ailleurs, les cours ont repris ce jeudi à l'ISDER, d'abord avec les étudiants de licence, mais la pariteur a été instruite de convoquer toutes les autres promotions à reprendre les cours dès ce vendredi, a ajouté notre source. Pour parer à toute éventualité, 3 policiers continuent à monter la garde dans les campus. Enfin, pour sa part, le directeur général de l'ISP a nié toute implication de ses étudiants à ces affrontements, car au moment des troubles, son institution organisait une conférence avec tous les étudiants sur le mois de la femme, a précisé Patrick Mbawa. Mbandaka pour Chamanengela, Radio Okapi.
À Goma, plus de 20 000 dollars américains, c'est le coût estimatif d'un lot substantiel de matériel de bureau que la MONUSCO a remis hier jeudi après-midi à la justice militaire. Cet appui vient régler les problèmes auxquels la justice militaire est confrontée dans cette partie de la RDC. Explication à Goma de Gabriel Ouaménia.
Ces matériels sont essentiellement constitués des imprimantes HP, des tables métalliques, des chaises roulantes, des armoires en bois et métallique et autres effets militaires, comme des lits de campagne et des tentes servant d'abri pendant les audiences publiques ou toute autre cérémonie militaire. Selon Marguerite Mefand, officier de la section d'appui à la justice de la MONUSCO, ce support logistique est conforme au mandat de la MONUSCO. Il s'inscrit notamment dans le cadre du partenariat conclu entre la RDC et les Nations Unies afin d'accompagner et d'appuyer les juridictions tant civiles que militaires. Le colonel Marguerite Mefant.
La cellule d'appui aux poursuites de Goma, nous venons une fois de plus apporter cet appui logistique à vous, nos partenaires que vous êtes.
Pour Nsa Obal, premier président de la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, cet appui est un motif de satisfaction. Rappelons que la section d'appui à la justice de la MONUSCO a, dans un passé récent, remis des jeeps 4x4 aux responsables de l'auditorat supérieur du Nord Kivu. Goma, Gabriel Ouaménia, Radio Okapi.
Politique à présent. Au Sud Kivu, le président de l'Assemblée provinciale, le rapporteur et son adjoint sont visés par une motion de déchéance pour mauvaise gestion. Le député provincial signataire de la pétition réclame la convocation d'une séance plénière dirigée par un bureau d'âge afin d'entendre les dirigeants incriminés. Radio Okapi Bukavu, Emmanuel Elamejo Kabedi.
C'est ce jeudi 1er avril que la pétition contre le président Zachary Loamira et ses deux rapporteurs a été déposée à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Elle porte la signature des 6 députés provinciaux. Plusieurs griefs sont mis à charge de ces 3 membres du bureau définitif. C'est notamment le refus de convoquer la session extraordinaire, la gestion administrative calamiteuse, l'opacité dans la gestion financière provinciale, dont le détournement de 10 000 $ américains comme complément à la dotation mensuelle de l'Assemblée provinciale par le gouvernement provincial. Signalons que ce n'est pas la première fois que les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu sont visés par leurs collègues. Au mois de juin de l'année passée, une vingtaine de députés provinciaux avaient signé des pétitions de déchéance contre presque tous les membres du bureau pour presque le même grief, mais l'affaire était restée sans suite. L'opinion attend voir si dans 48 heures, la plénière sera convoquée afin d'examiner cette question par un bureau d'âge. Emmanuel Elamejua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Revenons ici à Kinshasa où Raphaël Genda, compagnon de feu le président Laurent Désiré Kabila, appelle les dirigeants et les Congolais au patriotisme, gage du développement et de la cohésion de la RDC. C'est confiant à Radio Kapi ce jeudi. Raphaël Genda plaide pour la mise sur pied d'un observatoire composé d'acteurs indépendants capables d'asseoir une nouvelle culture politique susceptible d'accompagner la vision du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a été joint par Jean-Désiré Kanyama.
Après la formule de collaboration FCC cash, victime de la culture politique ambiante, la formule plus élargie et de recadrage, union sacrée, devrait promouvoir une plus grande inclusivité, une réconciliation et un rassemblement de tous les Congolais en vue d'éradiquer l'inversion des valeurs et booster une nouvelle culture politique dans notre cher pays. C'est dans cette perspective qu'il serait indispensable de créer une structure non partisane en termes de garde-fous ou d'observatoire afin d'accompagner toute initiative patriotique d'union et de cohésion nationale, à commencer par la vision d'union sacrée assurée par le chef de l'État pour concrétiser sa vision politique sur terrain. Il devrait donc s'agir d'un engagement et d'une collaboration loyale qui procède d'une nouvelle culture politique et qui doit bannir la duplicité et l'intolérance des parts et d'autres. Car le patriotisme étant une valeur fondamentale, non partisane, et mériterait d'être aiguisé dans le contexte politique actuel par des initiatives multiformes.
On en vient maintenant à l'économie. En vue de lutter contre la fraude douanière, la DGDA Maniema vient d'entamer à Kindu la modernisation d'un poste de contrôle des marchandises situé à 4 km de la ville de Kindu dans la commune d'Alunguli. Objectif visé par le directeur provincial de la DGDA, contrôler les marchandises qui viennent des autres provinces. Jodel Diongo le dit à Florence Kizalunga.
Vous savez que du côté de Alunguli, il y a une route qui relie la province du Maniema à d'autres provinces voisines. Et dans le cadre du travail que le gouvernement nous a chargé, c'est de pouvoir récolter les recettes des douanes et d'accises. Et pour cela, nous devons aussi lutter contre la fraude. D'après certaines informations que nous avons, les camions qui viennent de ces provinces voisines viennent par cette voie là-bas et à des heures où la douane n'est pas en opération. Voilà pourquoi il a été préférable pour nous et bon pour la lutte contre la fraude d'aller, si vous voulez, poser une barrière à cette route-là, à 7 km, pour que toutes les marchandises qui viendraient en fraude ou sans avoir été déclarées normalement dans les provinces voisines soient interceptées par la douane. Le travail, ce serait seulement de vérifier si ces marchandises qui arrivent des autres provinces sont des marchandises en libre circulation ou des marchandises qui n'ont pas encore été déclarées à la mise à la consommation pour la République démocratique du Congo, et que donc, en ce moment-là, nous allons appliquer la loi.
J'ajoute que le représentant de la mairie qui a posé la première pierre pour l'érection de la barrière métallique a salué cette initiative de la DGDA qui va ainsi permettre de générer les recettes du trésor public dans des conditions optimales.
Actualité internationale.
Au Niger, l'investiture de Mohamed Bazoum intervient dans un contexte tendu alors que son élection est toujours contestée par l'opposition, qu'une tentative de coup d'État a échoué mardi soir et que le pays a connu ces 15 derniers jours des attaques terroristes les plus meurtrières de ces dernières années. Réuni hier jeudi après-midi en sommet par visioconférence, le 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont décidé de donner un fort tour de vis aux exportations des vaccins contre le coronavirus. Le mécanisme européen de contrôle des exportations sera durci, ont-ils affirmé. Ils ont conclu leur sommet hier avec une rencontre virtuelle avec le président américain Joe Biden, un point de départ symbolique du renouveau du lien transatlantique.
L'invité.
Notre invité, c'est le ministre provincial du commerce de Kinshasa, Osé Badibanga, parle du délai butoir accordé par le gouvernement provincial aux expatriés de cesser le petit commerce. Il parle également de la traque des vendeurs d'eau en sachet. Les propriétaires des usines de la fabrication d'eau dans des conditions inappropriées seront traduits en justice, selon lui. Il s'entretient avec Blaise Shindani Kambala.
Monsieur le ministre provincial du commerce, bonjour.
Bonjour, bonjour Papa Blaise.
Lundi, le 5 avril, c'est la date butoir que vous avez accordée aux expatriés pour arrêter avec les petits commerces. Est-ce que cette date-là est maintenue?
Voilà, merci beaucoup pour l'occasion que vous nous accordez. Nous réaffirmons encore que la date du 5 avril est maintenue. Le moratoire va expirer le 5 avril. À partir du 6, nous aurons des actions de grande envergure sur terrain pour voir comment respecter et faire respecter la loi de notre pays.
Quand vous dites petit commerce, qu'est-ce que les Kinois doivent comprendre par petit commerce?
Merci beaucoup. Les Kinois doivent comprendre que le petit commerce, c'est un commerce de détail. C'est-à-dire, le Congolais, seuls les Congolais sont autorisés à faire le petit commerce, donc le commerce de détail. Et nos amis expatriés doivent nous vendre leurs marchandises en gros, c'est-à-dire soit les douzaines, soit plus d'un douzaine. C'est ce que les expatriés doivent faire comme commerce. Et pour le Congolais, ils doivent faire le commerce de détail, c'est-à-dire vendre article par article, c'est-à-dire en un bon français. Voilà.
Mais curieusement, monsieur le ministre, beaucoup de Kinois pensent que c'est une bonne chose que les Chinois puissent placer leurs boutiques dans leur quartier, hein, parce que là, en leur vendant en détail, ils leur facilitaient la tâche. Au lieu de se rendre au grand marché, ils achetaient sur place. Que pouvez-vous répondre à ces Congolais?
Les Congolais doivent comprendre, particulièrement les Kinois, doivent comprendre que la décision que nous avons prise, c'est pour promouvoir la classe moyenne. Nous avons plus de 90% de Congolais qui sont en train de vivre dans la classe moyenne. C'est-à-dire la classe moyenne, c'est-à-dire une personne qui n'a pas beaucoup d'argent, qui n'en a pas aussi, qui n'est pas aussi plus pauvre, qui est un tout petit peu moyen. Donc, nous voulons promouvoir cette classe-là. Donc, le Congolais a aussi la capacité de mettre les boutiques par-ci, par-là, dans nos quartiers. Mais sauf qu'ils ne sont pas soutenus. C'est pourquoi nous avons pris cette décision pour soutenir cette classe moyenne-là. Nous pensons que les Congolais sont capables, les Kinois sont capables de nous vendre les articles en détail et à un bon prix.
Voilà. Nous savons que beaucoup de supermarchés sont tenus par les expatriés. Eux aussi tombent sous la sanction ou non?
Voilà. Selon la loi congolaise, les expatriés sont autorisés à faire le commerce de détail dans de supermarchés. Là, c'est clair, ils sont autorisés. Et ils peuvent aussi vendre les pièces de rechange. Voilà. Et ils peuvent aussi tenir des dépôts pharmaceutiques. Là, ils sont autorisés. On ne peut pas les en vouloir pour ça. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc, nous allons les laisser travailler dans les supermarchés. Nous allons les laisser travailler dans les pièces de rechange et dans les dépôts pharmaceutiques. Voilà.
Quelles seront alors les sanctions contre les récalcitrants à toutes ces mesures prises par le gouvernement provincial?
Je répète que nous allons juste faire respecter la loi et nous allons suivre la procédure et la bonne procédure. Vous savez, vous êtes sans ignorer que la DGM est là, qui contrôle les expatriés. Le parquet est aussi là. Je profite de l'occasion de votre micro pour relayer encore l'information, le message de son excellence, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui avait dit, quand nous allons descendre sur terrain, surtout pour nos amis qui vendent de l'eau dans des sachets et dans des bouteilles plastiques, et nos amis qui nous vendent le whisky dans des bouteilles plastiques, nous allons descendre sur terrain, nous allons suivre sérieusement, et celui qui ne va pas respecter, le parquet va s'en prendre à lui. la justice est là, nous allons nous servir de la justice pour sanctionner.
Mais vous avez suivi quelle voie pour que tous les Congolais soient informés de cette mesure du gouverneur? La sensibilisation, elle est passée comment? Beaucoup diront que, en tout cas, nous n'avons jamais su ça. Voilà, les autorités viennent seulement sanctionner, mais sans prévenir.
Voilà, merci beaucoup. Nous nous sommes servis par la voix des ondes, nous nous sommes servis de Radio Okapi. Quand nous avons publié notre communiqué, nous avons invité beaucoup de chaînes et je pense que nous les avons aussi notifiés. Ils sont au courant, ils ont leur corporation ici au Congo. Nous les avons aussi notifiés. Nous savons que aux 5 personnes ne dira que je n'étais pas informé. Voilà.
Alors comment faire pour éviter les débordements? Parce que nous connaissons nos agents de l'ordre ici. Hein. Est-ce que vous avez pris des mesures pour éviter les débordements?
Oui,
dans ces...
au sein de mon cabinet, nous avons déjà formé une commission composée des inspecteurs de commerce. Il y a quelques inspecteurs de l'industrie. Il y a aussi les inspecteurs de finances, de petites et moyennes entreprises, ainsi que le représentant de la ville de Kinshasa. Nous serons là pour suivre à la loupe, au jour le jour, comment les mesures seront exécutées sur terrain.
Monsieur Osé Badibanga, merci beaucoup.
Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier.
Osé Badibanga, le ministre provincial du commerce à Kinshasa, était l'invité de Radio Okapi, interrogé par Blaise Shindani Kambala. À Kinshasa, il est 12h20 et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision de Julien Nyamouni Mwanachango.